Bonjour à toutes et à tous, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte, un rendez-vous compte spécial composé comme chaque mois avec nos chroniqueurs désormais attitrés, ces chroniqueurs en deux mots et chroniqueuses en deux mots aussi, qui aiment se retrouver, se concerter, se filer des idées, bref, s'entraider et puis même parfois se réfugier. Et cela tombe bien puisque le refuge, c'est justement le thème choisi en commun pour ce rendez-vous compte d'aujourd'hui. Alors pour commencer, comme chaque mois, nous retrouvons notre ami Michel Souffroy-Paret, qui nous propose, selon son habitude, son regard lucide, moins bienveillant cette fois-ci peut-être, sur un paumé qui a bien du mal à trouver le refuge qui l'empêcherait de sombrer dans le déluge.
T'as vu ce que t'es devenu ? Un pauvre mec, un paumé qui sait même pas où aller avec son chien. Aussi perdu que lui, qui sort de la SPA. Tu vas passer une nuit au refuge, s'il y a encore de la place, et s'ils veulent bien de vous. T'as plus rien dans la vie. De toute façon, t'as jamais rien eu. T'as jamais su ce que tu voulais, jamais content, toujours la trouille. Tout petit, déjà, au moindre bruit, au moindre coup de gueule de ton vieux, et quand les couilles pleuvaient, tu te réfugiais dans les jupes de ta mère ou dans un coin pour qu'il ne te voie pas. Elle est partie, ta vieille. Plus personne pour te consoler, te protéger. Après, tu t'enfermais dans ta chambre. Tu t'abrutissais de romans de science-fiction ou d'aventures dont tu aurais pu être le héros. Tu lis même plus, t'en as plus envie. T'as trouvé des petits boulots, de quoi vivoter. Tu t'es réfugié là-dedans. Tu pensais plus, t'y trouvais l'oubli. Maintenant, plus rien, t'es au chômage. T'as plus qu'à aller retrouver tes potes, aussi paumés que toi au bistrot. Au moins, là, t'as chaud. Vous fumez. Vous picolez, vous cherchez un peu de bonheur dans des paradis artificiels. T'y perds ton fric, tes illusions, ta santé. T'avais pourtant rencontré une chouette de nana. Vous vous aimiez. Elle en a eu vite marre. Elle t'a plaqué et toi, t'as tout larguer pour courir le vaste monde, retrouver la nature, dormir à la belle étoile ou dans des refuges au confort souvent précaire. Toujours mieux que la rue de maintenant. Ça n'a pas duré non plus. Oh, t'avais bien pensé à t'engager dans l'armée. Oh, la marine! La mer, l'horizon, le vent. Bon, pas sûr que t'aurais vu du pays. Et puis, obéir, c'était pas ton truc. On t'avait dit, milite, la politique, ça te sauvera. Tu rencontreras des camarades, des vrais. Ensemble, vous bâtirez un monde meilleur. Là aussi, ça a foiré. Tous des menteurs, des donneurs de leçons. C'était pas pour toi. Tu savais plus à quel saint te vouer. Dans ces cas-là, il vaut mieux s'adresser directement au Père. Dieu est ton refuge, c'est ce qu'on dit. Tu parles, lui non plus, il a pas voulu de toi. Prier, espérer, ça ne nourrit pas son homme. C'est pour les idéalistes, les illuminés. T'es qu'un pauvre mec, une épave. Avant ton dernier refuge, ta dernière demeure. La terre, elle sera bien obligée de t'accepter, elle. Il reste bien une solution. L'or, valeur, refuge. Tu fais un casse, t'empoches le magot, tu te barres avec les lingots. Adieu, paradis artificiel. Vive les paradis fiscaux. T'es même pas cap. Allez, Ce soir encore, tâche de dormir dans ce refuge minable. Avec tous tes potes, vous allez peut-être rêver d'une autre vie, d'un autre monde. Après toi, le déluge.
Merci Michel pour le portrait de ce paumé qui ne sait même pas où trouver dans le monde réel ou celui des ivresses de toute nature le refuge auquel il aspire désespérément et que notre rendez-vous compte lui accorde puisque c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Merci également à Michel, sans eux, pour l'enregistrement depuis votre belle côte méditerranéenne. Michel, on te retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique sans doute plus souriante.
IDFM, 98FM.
Nous sommes toujours bien sûr IDFM et nous marquons une première pause musicale en accord avec notre thème d'aujourd'hui, refuge, avec une chanson de Richard Cocciante datant de 1987 qui nous raconte un amour né dès l'enfance et qui grandit au fil des souvenirs partagés et devient tout au long de la vie un refuge protecteur. Une chanson si justement interprétée avec toute la tendresse et la mélancolie qu'on lui connaît par notre ami Thierry Leclerc, comédien, compositeur et chanteur.
Quando la sera si volò su di noi, all'uscita della scuola in città, ci prendemmo per mano, ti dissi io ti amo. Quando un bambino ci tagliò poi la via, con un tamburo di latina scia, e poi che il suono rimbalzò su di noi, io ti amo. Il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. Poi ti senti te forte insieme a me, quasi a proteggere il tuo dentro di te, delle prime parole d'amore, io ti amo. Quando la neve di silenzio bianco, tutto che giace al centro della città, e le nostre parole gelo, io ti amo. Il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. Gente poi uscì dai teatri, di fueme rosse coprì i nostri passi, che contammo di baci mai dati, io ti amo. Il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. E quando rincanto amare ancora di te, dal quadro un'alba da ciò che non c'è, sorridendo penso ancora di te, che ti amo. Tanto lontana non so se sarai, tanto vicina ascoltami potrai, come me nessuno di ti saprà, io ti amo. Il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu.
Le refuge, notre thème d'aujourd'hui, peut aussi prendre la forme inattendue d'un escalier en colimaçon pour un philosophe en méditation. C'est ce que nous raconte en tout cas Nicolas Martin, artiste lui-même, notre chroniqueur spécialisé dans l'univers de la peinture.
Accroché à un mur du musée du Louvre depuis son ouverture en 1793, le philosophe en méditation peint par Rembrandt, un siècle et demi plus tôt, tient dans une économie de moyens. Une pièce, une fenêtre, une lumière mesurée, deux présences. Et au cœur de cette pièce de soubassement, un escalier en colimaçon, une forme qui choisit la courbe et qui, par nature, propose autant d'avancer que de revenir. Tout commence par cet espace clos qui se ferme, se resserre et se tait. Les murs épais de pierre ne racontent rien. Ils contiennent. Ils font barrage à ce qui est dehors. Dans ce volume limité, le temps renonce à l'urgence et devient une matière lente. Une substance qui se dépose. Le tableau ne montre pas une forme de refuge. Il l'édifie, pierre par pierre, ou peut-être, si l'on regarde de plus près, ombre par ombre. La lumière dorée entre par la gauche, avec retenue. Elle ne s'impose pas. Elle choisit sa place et installe une zone de clarté près du vieil homme aux mains croisées. Puis, elle s'amenuise, glisse et consent à laisser des pans entiers dans la pénombre. Cette même pénombre qui empêche l'œil de tout prendre et qui, en l'orientant, l'oblige à habiter ce qu'il voit. L'esprit ici se structure par sélection. Le philosophe est assis près de la fenêtre. En contrepoint de l'immobilité de son corps, ses pensées semblent s'animer. On en perçoit le poids. Tout ce qui l'entoure, la table, la pierre, la lumière, l'air épais, est là pour soutenir cette densité. Une seconde figure se tient à l'opposé, celle d'une femme âgée qui entretient le feu de l'âtre. Elle ne pense pas, elle veille. Tandis que l'homme se tient près de la fenêtre, donnant vers la lumière du dehors, elle demeure au plus bas de la pièce, près du sol et du foyer, dans cette zone où la chaleur naît de la matière même. Son geste est simple, presque immuable, nourrir le feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Ainsi la pensée se tient d'un côté, tournée vers la lumière qui descend du monde, et la vie de l'autre, occupée à maintenir la flamme qui permet simplement d'habiter le lieu. Dans cette opposition silencieuse, la femme devient plus qu'une présence domestique. Elle incarne la continuité de la vie ordinaire, le temps des gestes répétés, la part terrestre de l'existence. Le feu qu'elle entretient répond à la lumière de la fenêtre. L'une éclaire la pensée, l'autre soutient la vie. Entre ces deux sources, Rembrandt installe une tension calme. La méditation la plus haute ne flotte pas au-dessus du monde. Elle repose sur un foyer qui brûle, quelque part dans l'ombre. Et puis, l'escalier. Sa spirale n'est pas un simple élément d'architecture. Elle rend visible une architecture intérieure. Elle figure la pensée qui ne surgit pas d'un coup, mais qui tourne autour d'un centre, qui revient, hésite, reprend. Les idées y circulent comme sur des marches, progressant lentement vers la lumière. Une ascension retenue. Mais la spirale suggère tout autant le mouvement inverse, la descente en soi. Elle conduit vers la profondeur obscure où se logent les pensées, les doutes, les réflexions premières. Monter ou descendre importe peu. Ce qui compte est le mouvement silencieux, presque secret par lequel l'esprit se transforme. L'escalier devient ainsi la métaphore d'un passage intérieur, une manière de changer d'état sans changer de lieu. On a longtemps appelé ce tableau « philosophe en méditation ». Le Louvre préfère aujourd'hui « philosophe en contemplation » et propose une description plus neutre. Deux figures dans un intérieur avec escalier hélicoïdal. Sur cette toile, tout est retenu, les transitions se font lentes, les ombres ont une épaisseur qui absorbe le superflu et impose une forme de patience. L'espace s'ordonne comme l'esprit. Rien ne cherche à surprendre, tout s'installe. La peinture ne raconte pas une histoire. Elle propose un état, celui où la clarté n'a pas vocation à tout envahir et où l'obscur demeure nécessaire. Et l'idée de refuge naît alors de décisions picturales très simples. Fermer le lieu, filtrer la lumière du jour, hiérarchiser les plans, rendre l'ombre habitable. La fenêtre n'est pas une promesse d'évasion, elle agit comme un filtre, presque un hublot tourné vers le monde. Quant à l'ombre, elle n'est pas disparition, mais passage. Elle conduit vers l'escalier qui n'est pas une fuite, mais un accès. Et lorsqu'on en recule de quelques pas, une évidence s'impose. Le refuge existe ici sous deux formes indissociables. Physique d'abord, mur, pénombre, intérieur protecteur. Mental ensuite. Attention, tri, silence accepté. La pièce abrite le corps. La lumière règle ce qui peut entrer. Et au centre, la spirale figure ce travail intérieur. Les profondeurs de l'esprit deviennent ainsi une architecture. Un lieu d'intimité où la pensée peut enfin prendre son temps et consentir à suivre ses propres courbes. À bientôt dans Argument.
Merci Nicolas, Nicolas Martin pour cette brillante analyse du tableau « Le philosophe en méditation » de Rembrandt, où l'escalier en colimaçon devient enfin la métaphore centrale d'un mouvement intérieur par lequel l'esprit explore ses propres profondeurs. Rendez-vous compte.
Quand je suis mal et que mon âme divague, quand je ne peux plus résister à la vague, quand je sens qu'il est vain pour moi de continuer à lutter, quand je n'ai plus la force de dire les mots, quand le seul argument serait le repos, quand je sens que j'ai raison et que je ne peux plus le prouver, alors le refuge, le refuge, le refuge, c'est toi, alors le refuge, le refuge, le refuge, c'est toi. Le soleil ne perce plus les rideaux, quand c'est la brume qui endort mon cerveau, quand le téléphone a compris qu'il valait mieux ne plus sonner, quand la réalité se montre au grand jour, quand les réflexes et le regard se font lourds, quand la traversée du désert est sur le point de commencer, le refuge, le refuge, le refuge, c'est toi, alors le refuge, le refuge, oh, le refuge. Rien n'est jamais acquis, on ne sait pas ce que nous prévoit la vie, et si demain matin tu devais à tout jamais me quitter, je serais seul avec mon âme qui divague, je ne pourrais plus résister à la vague, je crois qu'il serait vain pour moi de continuer à lutter. Mon refuge, mon refuge, sois là, alors mon refuge, mon refuge. Mon refuge, c'est toi.
IDFM 98 FM.
Si pour Thierry, le refuge qui nous permet de traverser la vie et le monde naît parfois de l'enfance, comme dans cette chanson de Richard Cocciante qu'il vient nous interpréter, et si pour Nicolas, l'esprit explore ses profondeurs par un escalier en colimaçon, Gérard Poitre, célèbre auteur des non moins célèbres chroniques de Son chat Maurice et de Dialogue avec un arbre, Gérard nous raconte une fable délicate et touchante dans laquelle une jeune fille rencontre une étrange créature qui, avec elle, donnera refuge à une vie nouvelle. N'est-ce pas, Gérard ?
Le besoin d'un refuge, même éphémère, temporaire, concerne chacun d'entre nous. Ce besoin se manifeste dès l'enfance. Les enfants souhaitent très vite avoir un lieu d'intimité où ils ont au moins l'impression d'être sortis du monde et de ses contraintes. Mais ce lieu ne reste souvent qu'un simple souvenir d'enfance. Mais parfois, il marque la vie entière et le désir de le retrouver devient une nécessité, peut-être inconsciente, qui n'est pas sans conséquences. L'histoire inventée de Virginie que je vais vous raconter en est un exemple. C'est le refuge pour la vie de Virginie. J'ai redécouvert les buttes Chaumont. Je n'y étais pas retourné depuis l'enfance. J'avais le souvenir de nombreux endroits mystérieux où je me suis caché et de grottes attirantes bien que sombres et froides. Il me semblait entendre des voix caverneuses et entrevoir des ombres menaçantes, même si cela m'incitait plus à les débusquer qu'à les fuir. Cet univers souterrain m'aidait à supporter l'agitation et la promiscuité de la ville. Je le retrouvais vallonné, naturel, mais plus soigné et plus majestueux qu'avant, car, entre-temps, les arbres avaient considérablement grandi. Le calme du lac immobile contrastait toujours avec les falaises tortueuses. Je tentais de refaire les chemins de ma jeunesse, parmi les pentes abruptes, les roches, les cèdres et les quelques séquoias devenus géants. Le soleil d'automne commençait à rosir. Il descendait peu à peu derrière les toits parisiens, mais je voulais terminer le parcours qui me mènerait aux falaises. Peu après, je me retrouvais seul face aux failles profondes de la roche. Le parc était désert. Je n'avais plus les sensations d'antan, plus d'angoisse mêlée de curiosité et de besoin d'être à l'abri. Mais soudain, je crus voir un homme fleur apparaître entre deux plis de la roche. C'est le nom qui me vint aussitôt à l'esprit. Au même moment, les derniers rayons du soir l'illuminèrent. Des branches fleuries entouraient son corps, comme si la nature l'avait doté de membres, lui procurant une grâce et une légèreté au-delà de son expression humaine. Il me sembla qu'il me souriait, qu'il m'interpellait, sans pour autant m'inviter à entrer dans la grotte. Je voulus malgré tout franchir le passage dangereux qui me séparait de la faille rocheuse, en scrutant prudemment le sol, mais à peine relevais-je la tête, il avait disparu. La nuit suivante, l'homme fleur hanta mes rêves. Je ne pouvais pas rester sur cet échec et décidai de retourner au parc. Plusieurs soirs de suite, j'attendais dans les fourrés. J'y passais une partie de la nuit, mais il ne se montra pas. Peut-être avais-je démasqué sa présence contre son gré. À bout de patience, je pris le risque, l'obscurité venue, de pénétrer dans cet antre. La noirceur croissante compliquait ma tâche, au point qu'une énième glissade entraîna ma chute. Elle me parut interminable, mais indolore, soutenue par une force ascendante qui la ralentissait, qui m'entourait d'un courant doux et protecteur. Alors que je m'attendais à me fracasser la tête, j'eus la sensation d'atterrir sur un épais tapis moussu. Je n'ai aucun souvenir de la manière dont je me suis ensuite retrouvé sur un banc du parc, dans la nuit profonde, étonnamment sereine et apaisée. Quelques semaines plus tard, je découvris que j'étais enceinte. Cela me parut impossible vu mon célibat. Devais-je garder un enfant sans père, sans même que je puisse dire qu'il en existe un, sans savoir ni quand ni comment il avait été conçu? Mais mon corps m'indiquait autre chose. En particulier, mon odeur évoluait au fur et à mesure de la grossesse. On dit que l'odorat féminin est plus sensible dans cette période, mais c'est l'odeur de mon corps qui changeait. Un mélange de sauge, de menthe, de jasmin et de rocaille émanait de mes pores. Mes amis ne me croyaient pas lorsque je soutenais que je n'ajoutais aucun parfum. Au bout de 9 mois, je supportais moi-même difficilement ce parfum permanent. Plutôt qu'une contraction, la dernière migraine fut le signe que le bébé devait naître. Il sortit difficilement, comme s'il remontait du fond d'une grotte. C'est l'image qui me fit supporter la sensation douloureuse lorsqu'il franchit les portes de mon ventre. La sage-femme me dit, étonnée, « Aucun nouveau-né n'a cette odeur, comme s'il était né dans un parc. » Le lendemain, elle ajouta, « C'est bizarre, il est couvert de boutons que nous n'avons jamais vus, comme des bourgeons ou de petits éclats de pierre. » Ça ne lui fait pas mal apparemment, il a plutôt l'air d'en sourire. Voulez-vous que nous les traitions ? Non, non, répondis-je sans réfléchir, je crois savoir d'où ça vient.
Très très belle histoire, franchement, on a écouté ça suspendu, on se demandait. Ouais, bah écoute, merci pour cette nouvelle naissance.
Voilà.
Bienvenue au petit homme fleur.
Au petit homme fleur,
voilà. Oui. Merci Gérard, merci beaucoup. On te retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle chronique dont tu accoucheras certainement avec le même talent.
Merci beaucoup.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver dans le port de Honfleur. Tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi voir le Japon, ses cerisiers en fleurs. Emmène-moi écouter les sirènes, envoûter les pêcheurs. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et emmène-moi dans des forêts sombres où nous nous perdrons. Et emmène-moi voir les pyramides, saluer les pharaons. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Faut dire qu'avant toi, jamais je n'ai eu de maison. Mon refuge où que nous allions. Oh, oh, oh. Allez, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi.
IDFM 98FM.
On retrouve maintenant Marine, Marine Gouvin, notre illustratrice freelance qui va nous expliquer si l'art est véritablement ce refuge face au monde extérieur tel qu'on se l'imagine souvent, n'est-ce pas Marine ?
Oui, l'art est souvent perçu comme un refuge à tous nos maux, nos misères, nos soucis, mais également un refuge à toute notre créativité, notre joie, notre imagination. C'est un refuge rien qu'à nous, qui ne ressemble qu'à nous, il n'est identique pour personne. Il est notre image, il est à notre image, à nos espoirs, à notre histoire. Et même, il a cette capacité de se métamorphoser avec le temps, comme nous, il mue, se développe, se transforme, sous la direction de notre moi architecte qui supervise toutes ces mutations. Un mutant refuge, un refuge vivant et sensible. Mes refuges ont été nombreux, petites et de toutes sortes. Ce pouvaient être les bras de ma mère, ceux de ma sœur, la salle de l'éveil musical qui m'emplissait de joie, la lecture, le jardin, le dessin. Mes refuges étaient autant des endroits physiques où mon corps prenait possession de l'espace et épuisait du réconfort et un sentiment de sécurité que des endroits plus métaphysiques où je m'évadais en pensée. En grandissant, ces endroits ont changé de place. La salle de l'éveil musical est devenue une scène de théâtre, les bras de ma mère, ceux de mes compagnons d'alors, et la forêt, la nature, les bivouacs, mes espaces naturels où mon corps se reconnecte au vivant pour souffler et se sentir plus en vie. J'ai appris à apprécier la rudesse des bivouacs et des treks, jusqu'à les nommer mes refuges. Quand bien même j'y connais le froid, la fatigue, les douleurs physiques, j'y retrouve une paix intérieure immense et un sentiment d'appartenance au monde que je ne connais pas en ville. Les librairies font partie de mes refuges préférés. Quand je ne vais pas bien, j'aime à en franchir les portes et à déambuler dans tous ces rayonnages qui me promettent tant d'échapper. Les librairies indépendantes sont en plus souvent designées, imaginées pour être de véritables refuges. Récemment, en Normandie, j'ai découvert une ressourcerie café de livres incroyables où on pouvait lire tout en mangeant des plats préparés maison au coin du feu dans des gros fauteuils jaunes d'or. Dehors, il faisait froid, j'avais un chocolat chaud succulent dans les mains, mon livre était prenant et je sentais la chaleur du poêle sécher mes vêtements refroidis par la pluie fraîche. Un moment cocooning, délicieux, tendre, moelleux, que j'aurais aimé prolonger à l'infini, même si je sais bien qu'au bout d'un moment, l'appel de mes jambes m'aurait porté à franchir la porte de ce monde chaud et douillet pour celui plus rude de la nature, mais où j'y trouve aussi une autre forme de refuge. Dehors, dedans, mes refuges, des allers-retours entre l'intime et l'extérieur. Il est des refuges que l'on choisit et d'autres qui se laissent découvrir, comme cette librairie-ressourcerie incroyable. Mais il est parfois des refuges qui peuvent être douloureux. Depuis mes 18 ans, je vivais des épisodes dépressifs longs et mouvementés, et l'art me permettait de m'échapper, de sortir toute la colère, la frustration, la peur, la honte qui me broyaient le corps et les os. Une fois le lest lâché sur mes papiers et mes aquarelles, je me sentais mieux. Mais parfois, un peu triste de voir que ma passion et mon activité professionnelle se construisaient également avec ces moments noirs et douloureux. Il m'arrive souvent de faire des illustrations que beaucoup de personnes apprécient lors de ces moments houleux, et même si c'est beau de voir que j'arrive à transmuter le noir en couleur, les idées sombres en images lumineuses, je trouve triste que le dessin soit ce refuge. J'aimerais qu'il soit le refuge de ma joie, ce qu'il est assurément aussi, mais que mes illustrations ne deviennent pas la signature de mon mal-être, comme elles ont pu l'être si souvent. Un rempart à la solitude profonde, à l'ennui, au mal-être. Je vois aussi mes refuges au dehors rapetisser, voire disparaître, comme tous ces oiseaux qui voient leur cime s'évanouir, leurs cieux s'évaporer et non plus nulle part où nicher, et ces mammifères qui voient leur terre s'amoindrir, des couloirs écologiques disparaître, les confrontant à la terrible épreuve de la traversée de la route. Mes refuges se retrouvent coulés dans du béton, mes troncs d'arbres sur lesquels je m'asseyais pour lire en forêt découpés en tronçons. Alors j'essaye de trouver refuge ailleurs, dans des récits positifs portés par des personnes incroyables, des histoires réelles qui nous montrent que nous ne sommes pas que faits pour détruire. Et mes illustrations s'écrivent de la sorte, pour que mes vœux de demain existent sur l'aquarelle, soient portés aux yeux du spectateur et deviennent réalité enfin. Un refuge pour demain.
Merci Marine pour nous avoir si sincèrement confié combien l'art, ton art, est à la fois signature de ton mal-être et un refuge pour demain. Marine, où est-ce qu'on peut retrouver tes créations, rappelle-nous?
Sur mon site www.marinegauvin.com, Gauvin, G-A-U-V-A-I-N, n'oubliez pas le A, il est important.
Et puis Marine, un mot sur l'expérience hors du commun que tu vas vivre ces prochaines semaines?
Oui, je m'envole donc à l'heure de l'enregistrement, tout à l'heure, à 21h pour Madagascar, pour 3 semaines, dans l'association Zazakili, dont on avait parlé aussi sur cette antenne. À Rendez-vous Compte, voilà, où je vais faire un reportage dessiné de l'association.
Bah écoute, bon voyage, merci. Bon séjour, et puis on te revoit de toute façon le mois prochain.
Le mois prochain, oui.
Merci Marine.
Merci. Au cœur de la nuit, des rivières de plumes, des marches. champ de sable qui marche dans la brume. On lève les voiles sous un lit d'étoiles et j'entends ta voix qui me chante joie. Moi, au cœur du déluge, trouver ton refuge au bord de l'écume, fuir l'amertume. Tu m'as dit tout bas, on t'attend déjà de l'autre côté.
De sable qui marche dans la brume. On lève les voiles sous un lit d'étoiles. Entends-tu ma voix qui te chante? Reviens, moi.
IDFM 98FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM Radio où l'on retrouve dans ce rendez-vous compte spécial chronique consacré au thème du refuge, celle qui aime faire des autopsies, boire du Pepsi et dire des inepties. Hélène Souhaud, psychothérapeute et psychanalyste qui nous présente son œil du psy. Alors Hélène, où t'ont donc entraîné tes réflexions sur la notion de refuge ?
On va commencer par comprendre ce mot. Si on remonte à son étymologie, le refuge vient du latin refugium, qui signifie se retirer en fuyant. Autrement dit, il s'agit d'un mouvement, quitter un danger réel ou ressenti pour se mettre à l'abri. C'est pas seulement un lieu, c'est un élan vital, une réponse instinctive face à l'insécurité. Car le besoin de sécurité est fondamental dans la psyché humaine. Dès les premiers instants de sa vie, l'être humain est programmé pour chercher protection, apaisement, stabilité. Ce besoin n'est pas un luxe, c'est une base psychique essentielle. Quand le refuge est assuré, alors on peut s'éloigner, explorer. On le voit chez le jeune enfant qui oscille entre le mouvement de rester accroché à sa mère et celui de partir jouer en vérifiant qu'elle reste en vue et qu'il peut revenir en arrière en cas de danger.
Alors comment assurer cette base de sécurité à son enfant ? Il ne faut pas le quitter d'une semelle, c'est ça ?
Aucune solution extrême n'est jamais bonne. Aimer trop ou pas assez, protéger à chaque instant ou abandonner, ça ne marche pas. On cherche la bonne dose en tout. Offrir une base de sécurité solide ne veut pas dire empêcher d'explorer. Un de mes patients, élevé par des parents anxieux, est tombé lorsqu'il a fait ses premiers pas vers un an. À partir de là, il a été surprotégé pendant plusieurs mois. Il ne tombait plus, certes, mais il n'apprenait plus non plus. Son acquisition de la marche a pris 6 mois de retard. Cet exemple nous montre que trop protégé peut être contre-productif. À l'inverse, un parent qui disparaît ponctuellement sans explication est particulièrement déstabilisant pour un enfant. Dans son dernier film intitulé « Dites-lui que je l'aime », Romane Boringer tresse ensemble deux enfances marquées par des mères défaillantes, la sienne et celle de Clémentine Autain. Certaines scènes de ces enfants sont reconstituées, notamment une nuit où la petite fille de 5 ans se lève et découvre que sa mère n'est plus là. Elle est paniquée de se retrouver seule dans un appartement désert en pleine nuit. Ces deux exemples illustrent les deux extrêmes. Les parents font de leur mieux pour être là auprès de leur enfant, pour le protéger et répondre à ses besoins. C'est là que s'installe un lien sécure.
Bon, ça va. Mais que se passe-t-il quand l'enfant grandit et va seul au collège, par exemple ? Grande angoisse des parents.
Le lien sécure dépasse la présence réelle du parent. C'est un lien qu'on porte en soi, même en l'absence physique du parent, à condition que cette absence soit régulée, nommée, et que l'enfant ait la certitude qu'il va retrouver son parent au moment prévu. Lorsqu'un enfant peut compter sur une figure d'attachement stable, il développe une présence une confiance fondamentale. Il apprend que le monde peut être un endroit relativement sûr et surtout qu'il peut revenir vers quelqu'un de fiable en cas de détresse. Ce lien est alors un refuge intérieur. Même en l'absence de la personne, il reste une trace, une mémoire affective, une base sur laquelle s'appuyer. Le véritable refuge est dans l'âme, a dit Marc Aurèle.
Bon, et quand la sécurité initiale a été plus fragile, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, le sentiment de sécurité peut être plus difficile à construire. L'adulte peut passer une partie de sa vie à chercher, parfois inconsciemment, ce refuge qui lui a manqué. La thérapie est un cadre où l'expérimentation d'un lien sécure est possible. Ma phrase préférée avec mes patients, c'est « la porte reste ouverte ». Après un rendez-vous manqué, un malentendu, une interruption, le patient a toujours le droit de quitter la thérapie, mais il peut toujours revenir. Et en tant que thérapeute, je suis prête à renouer le fil et à accueillir le patient. Le refuge est une belle métaphore de la thérapie, un lieu accueillant où vous serez toujours le bienvenu. Le refuge ne doit pas devenir une prison. La fin de thérapie idéale est celle où le patient et le thérapeute constatent de concert que ça va bien, que la thérapie n'a plus lieu d'être, mais la porte reste ouverte. Quand on a été capable d'investir un lien solide, un refuge dans la thérapie, le refuge peut aussi se construire intérieurement et s'exporter dans sa vie courante.
C'est pas ce qu'on fait en sophrologie, par exemple ?
En effet, le sophrologue invite la personne à imaginer un endroit où il se sent parfaitement en sécurité. Ça peut être un lieu réel ou totalement imaginaire. L'important, ce n'est pas sa réalité objective, mais le ressenti qu'il procure. C'est un lieu où on peut se retrouver, que l'on peut retrouver à tout moment, notamment dans les périodes de stress ou d'anxiété. Ce type de visualisation n'est pas anodin. Il permet au cerveau de réactiver des sensations de calme et de sécurité, même en l'absence de conditions extérieures favorables. C'est une manière de reconstruire ou de renforcer le sentiment de refuge interne. Pour ceux qui n'auraient pas encore défini le leur, il est temps d'y rêver un peu. Où vous sentez-vous calme et en sécurité ? Au fond, avoir un refuge, ce n'est pas fuir le monde, c'est se donner les moyens d'y revenir plus serein.
Merci Hélène pour nous avoir expliqué si clairement que le refuge en psychologie est ce besoin fondamental de sécurité construit grâce à une figure d'attachement stable, à la fois refuge intérieur sans qu'il devienne une prison. Eh bien Hélène, tu as donné la définition exacte de notre radio IDFM et en particulier de notre émission Rendez-vous compte où ton œil du psy trouvera une nouvelle fois refuge le mois prochain. Merci Hélène.
Merci.
Dans ce monde parfois dur où l'on se sent si seul, tendons la main à l'autre, brisons ce linceul. Un geste, un sourire peuvent tout changer. L'entraide est la clé pour se relever. Regarde autour de toi, vois ceux qui ont besoin d'une épaule, d'une oreille, d'un peu de soin. Ensemble on peut gravir les plus hautes montagnes. L'union fait la force, c'est ce qu'on gagne. Ensemble, plus fort, main dans la main, on trace notre chemin. Quand l'un trébuche, l'autre le soutient. C'est ça l'entrée. Gestes comptent, ne les néglige pas. Un mot gentil, une aide, ça ne coûte pas. Tu donnes, tu reçois, c'est un cercle vertueux. L'entraide rend le monde bien plus lumineux. Dans les moments difficiles, on se serre les coudes. Face aux épreuves de la vie, ensemble on se soude. La solidarité n'est pas qu'un vain mot, c'est une force qui nous porte toujours plus haut. Ensemble, plus fort, main dans la main, on trace notre chemin. Quand l'un trébuche, l'autre le soutient, c'est ça l'entrée. De notre bien, dans la joie ou la paix.
trace notre chemin. Quand l'un trébuche, l'autre le soutient. C'est ça l'entraide.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Nous sommes toujours bien sûr IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chronique qui a pour thème ce mois-ci refuge, et nous avons le plaisir de retrouver comme chaque mois désormais la voix des jeunes. Victoria, étudiante en master de littérature, Victoria qui va nous expliquer en quoi les jeunes, souvent tentés par la fuite devant la pression du monde contemporain, doivent être capables de distinguer entre les bons et les mauvais refuges que ce même monde contemporain leur propose.
Alors, je suis là pour parler au nom des jeunes, mais quels sont les refuges des jeunes ? Avant de se poser cette question, je pense qu'il faut se demander ce que les jeunes fuient, car s'il y a refuge, c'est qu'on fuit quelque chose. Eh bien, je dirais simplement qu'on fuit le travail et ou les études. On peut aussi fuir sa famille, il y en a qui vivent très bien avec la leur, et d'autres non. Le refuge éternel de l'adolescent et du jeune adulte, c'est l'amitié d'abord, je dirais. Puis les relations amoureuses, et enfin, depuis une bonne vingtaine d'années, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les films et séries. Je dirais que le plus solide reste l'amitié. En effet, les relations amoureuses sont de plus en plus courtes et se terminent souvent en drame. Et les réseaux sociaux peuvent être très néfastes, comme on le sait. D'ailleurs, je dirais même que c'est un faux refuge. C'est au départ un moyen de s'échapper de notre quotidien, mais ça se transforme vite en addiction. Et c'est une addiction qui nous bombarde sans arrêt d'images néfastes pour notre santé mentale. On y voit des corps parfaits, des couples parfaits, enfin bref, le monde parfait. D'ailleurs, ironiquement, comme c'est le règne du faux-semblant, c'est finalement le retour à la réalité qui devient notre refuge. C'est en retournant bosser au McDo avec des gens de notre âge qui ont des corps normaux et des vies banales qu'on se rappelle qu'on n'est pas différent des autres finalement. Ce qui est fascinant avec les réseaux sociaux, c'est que ça fonctionne sur un principe assez absurde et pourtant ça a conquis le monde entier. Ce principe, c'est ce que j'appellerais le narcissisme admis. Je m'explique. Que l'on poste une photo de son chat, de sa tête ou même de son gros orteil, le message est toujours le même. Regardez-moi. Ce qui est la définition même du narcissisme. Et c'est pourtant totalement admis quand c'est sur Internet. Alors qu'au quotidien, à absolument aucun moment, il ne nous viendrait à l'esprit d'aller voir des gens au hasard dans la rue, de leur montrer la dernière photo des cookies qu'on a fait la veille, en leur demandant s'ils aiment la photo. Et d'ailleurs, les personnes qui vivent des réseaux sociaux sont face à ce paradoxe, ce qui crée de grandes contradictions. Les grandes influenceuses posent de temps en temps des photos de leurs poils sous les bras, de leurs cellulites, de leur tête démaquillée, en nous disant « ça c'est la réalité ». Il y a même eu un hashtag « on veut du vrai ». Et le lendemain, ces mêmes influenceuses vont publier leurs plus belles photos d'elles au Festival de Cannes, avec leur belle coiffure, leur beau maquillage, leur belle robe. La vérité, c'est que peu importe que l'on montre la laideur ou la beauté, le métier d'influenceur consiste toujours à se montrer. Et le narcissisme fonctionne dans les deux sens. En fait, on ne fuit pas un lieu, on fuit l'inconfort, qu'il soit réel ou virtuel. Si on n'aime pas son travail, on va se réfugier sur Internet. Si Internet nous pourrit le cerveau, on va se réfugier auprès de ses amis.
Voilà. Ben merci Victoria pour cette nouvelle leçon de sagesse et de bon sens. Alors, j'adore ta phrase. C'est en retournant bosser au McDo avec des gens de notre âge qui ont des corps normaux, entre guillemets, et des vies banales qu'on se rappelle qu'on n'est pas différent des autres, finalement. J'adore cette phrase. Rien que pour de telles phrases, d'ailleurs, Victoria, on te retrouve le mois prochain pour nous éclairer, encore une fois, sur les comportements de ces êtres curieux, les jeunes.
Merci.
Bon alors, on fait quoi ? T'as des idées ? Tu connais un endroit sympa ? Viens, on marche jusqu'à la plage et on verra où ça nous mène. J'ai envie de danser, m'éclater, tu vois. Bah alors, à quoi tu penses, Louane?
IDFM 98FM.
Mon refuge préféré. Ma vie est comme cette maison. En ruine, abandonnée, négligée. Elle respire le chaos, l'amertume. Elle aspire à l'abandon, au vide. Ma vie est comme ce vaste monde. Opportunités et ressources infinies. Gâchées, pillées, éventrées et défigurées. Elle se déroule lasse et imperturbable. Ma vie est comme ces multiples doutes qui m'assaillent, me tourmentent encore. Acceptation, désir et éternel dilemme. Elle s'accommode de ses mains regrets. Ma vie est comme ce havre de paix, si souvent parfaite, si tant généreuse, qu'elle me semble factice et alarmante, au point de redouter tant de maux à venir. Ma vie est comme ces labyrinthes secrets, à la croisée de mille chemins traversants, à la lisière de tant de belles rencontres. Quel chemin suivre? Quel destin choisir? Ma vie est comme ce tendre souvenir, rejouant cent fois cette même séquence. Quand tu m'as serré fort dans tes bras, cet instant où tu es devenu mon refuge préféré.
Lève la tête, vise la cime. Elle est belle cette montagne. Elle t'éveille, elle t'emmène tout en haut l'objectif et son trésor de paix. Un lingot dans chaque pas, une pièce d'or dans chaque goutte qui déferle sur ta peau. Océan du désir.
Gare aux pierres qui roulent, au mirage, au rapace. Gare à toi surtout, car le mur que tu coules pour détenir ton courage est un empire friable. Ne grimpe pas trop vite, ne saute pas les étapes, hiberne tes tempêtes, mêle la neige à ton sang de guerrier, chaud comme le volcan, vole comme l'épervier, et c'est au fond du refuge que tu trouveras la clé. Tes compagnons de cordée, le vin chaud dans l'amphore, la femme dans le marc de café, le cauchemar du piolet dans ta chair, ou le rêve de cette fleur plantée au sommet. Après ton sommeil, car après ce sommet, enfin arrivé au col de ta passion, embrasse les belles vices comme la braise baise le charbon. Alors là-haut tout s'éclaire, la vue est infinie, elle déborde d'horizons, de montagnes à gravir, mais au loin les éclairs, l'orage est imprécis. On dit qu'il gagne une montagne comme nous gagne une loterie. Tant pis pour les climats et l'assaut des orages, s'ils s'abattent sur toi, pousse la porte du refuge. Alors là-haut tout s'éclaire, la vue est infinie, elle déborde d'horizons, de montagnes à gravir, mais au loin les éclairs, l'orage est imprécis. On dit qu'il gagne une montagne comme nous gagne une loterie. Tant pis pour les climats et l'assaut des orages, s'ils s'abattent sur toi, pousse la porte du refuge.
Ainsi se termine notre rendez-vous compte spécial chronique consacré ce mois-ci au thème du refuge. Une émission à retrouver bien sûr en podcast sur le site d'IDFM avec toutes les références de nos chroniqueurs. Merci Michel, Nicolas, Thierry, Gérard, Hélène, Marine et Victoria. On vous retrouvera avec grand plaisir le mois prochain. Et quant à moi Didier, je donne rendez-vous à tous les auditeurs la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de rendez-vous compte sur IDFM évidemment. Et en attendant, je vous retrouve également dimanche matin dans la matinale de midi pour ma chronique Nec plus Ultra consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque. À bientôt.